Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, pour l'interview Erdiwa, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous invitons Barbora Prechova, bonjour.
Bonjour.
Alors Barbora, oui, de nouveau là pour nous présenter cette fois-ci des chants.
Voilà.
Que tu donneras en récital.
Le vendredi 16 à Manglon. À 20h, le soir, à la salle polyvalente, et puis dimanche, ici à 17h30, au temple.
Alors, tu es ici pour nous présenter quelques extraits de ce que tu nous interpréteras ces dates-là. C'est avec une thématique précise, cette fois-ci?
Oui, j'ai regroupé les chants autour de la douceur de la mer. Donc, il y a des berceuses. Comme d'habitude, c'est... dans les chants traditionnels de plusieurs régions. Donc, comme moi, j'ai l'affinité avec le chant du monde, eh bien, j'ai pris les chants qui sont à la fois de tradition latine, à la fois tradition slave et aussi proche orientale. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, pas seulement proche orientale, parce qu'il y a deux chants en syriaque et un qui va plus loin, qui est en Bengali, donc en Inde. Et donc, c'est le sujet, c'est autour de la mère. La mère, R-E, donc la maman. Donc, il y aura des berceuses, des chants plutôt calmes ou des chants qui parlent de la beauté de femme, de mère, de vierge aussi, Marie.
Mis à part que ce sont des chants de l'Europe de l'Est et même du Moyen-Orient, hein, ça va jusqu'au Moyen-Orient, avec ces thématiques de mer, est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, ces chants, entre ces chants, une corrélation?
C'est plutôt au niveau d'ambiance. Je cherche aussi par mon accompagnement relier les ambiances de chants. Donc, je m'accompagne soit à la guitare, soit au shruti box. Donc, c'est un instrument indien qui fait le bourdon. Je le fais sonner vite fait pour qu'on ait l'idée. Et puis, j'utilise pour un chant un bol tibétain et un psaltérien. Voilà. Sinon, c'est surtout le thème qui relie les chants, la douceur et la maternité, la mère.
Et ces chants, tu les interprètes aussi dans leur langue d'origine?
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc, tu as pris des cours de bengali pour interpréter?
Non, j'ai souvent des transmissions des personnes qui parlent la langue, donc j'enregistre la prononciation, je note le sens, et puis tout ce qui est... origine slave, je comprends moi-même parce que j'ai appris le russe à l'école et je suis d'origine tchèque, donc c'est déjà deux langues slaves. J'ai grandi dans l'ancien Tchécoslovaquie, donc c'était tchèque-slovaque déjà que je parlais tchèque, mais je comprenais passivement slovaque. J'ai appris le russe et après avec tout ça, en fait, on arrive à comprendre le noyau linguistique des langues slaves assez bien. Et puis au niveau de langue latine, eh bien, avec le français et toute petite base de latin, eh bien, je comprends le sens ou bien je me fais expliquer ou j'utilise les traductions que je trouve. Et pour les langues qui me sont vraiment étrangères, j'ai les traductions, j'ai des gens qui me les ont transmises et... Et voilà, donc je sais ce que je chante.
Donc tu vas peut-être nous interpréter un premier extrait et tu peux peut-être avant tout nous en parler.
C'est un chant, c'est une berceuse de Salemi, donc de l'Italie, Sicile, et qui dit « Dors mon fils, au pied de la menthe, dodo, dodo. Ce bel enfant fait dodo. Dors, mon fils. C'est l'heure de dormir. Tous les enfants dorment et c'est à cette heure-ci. Dors, mon fils, et repose-toi au pied de la rose. Figlio mio, dormi ed avventa, su talu peri di lamenta.
Ce premier morceau est...
Italien.
Ah mm-hmm. Là là, c'est
une tranche. Oh figlio mio. Mais c'est l'instrument qui est trompeur. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'ambiance est souvent reliée par l'utilisation des instruments. Parce qu'effectivement, l'instrument, il est indien. Mais je l'utilise pour les chants européens. Notamment pour celui-ci et aussi pour un chant en gaélique, donc d'Irlande. Et du coup, ça... Ça ramène la musique traditionnelle à un socle un peu commun, que ce n'est pas que c'est interchangeable, mais qu'on peut faire rencontrer les cultures de cette manière aussi. Et ça m'amuse bien.
Ça influence quand même le chant au niveau de...
Oui,
oui parce que j'ai été trompé aussi par le chant, puisqu'il y avait des tonalités qui sonnaient... telle que celle de la musique de Proche-Orient ou de Moyen-Orient.
C'est surtout le chant sur le bourdon a vraiment une couleur particulière parce que des fois ça peut un peu frotter avec le bourdon et on cherche à ce que le son se porte sur cette fondamentale qui avance, qui ne nous quitte pas et que c'est spécifique. Nous, on chantait sur le bourdon, chantait. Donc les chants en syriaque, souvent, il y a un bourdon d'homme qui accompagne, qui fait deux, trois notes, il baisse, il remonte, mais ça fait le même effet de son infini, où les gens se relaient pour respirer, on n'entend pas quand est-ce que les voix entrent, quand est-ce qu'ils se taisent pour respirer, et c'est assez magique. Et les églises aussi, c'est des espaces qui sont faits pour accueillir ce son-là.
Tu nous as lu un petit peu la teneur du texte avant la chanson. Ça évoque quoi pour toi, ce chant ?
Ben c'est... Moi, quand on dit des fois que les chants, que c'est un peu... que c'est lent, que c'est un peu... Est-ce que c'est pas triste ? Je dis non, c'est pas triste. La lenteur n'est pas forcément triste. Il n'y a pas... dans les berceuses, il n'y a pas de mélancolie. Ou, certes, dans certaines, comme dans une berceuse yiddish, où il y a vraiment la maman qui chante aussi sa tristesse et qui la partage au bébé. Donc c'est possible, mais ça ne veut pas dire que la lenteur apporte une tristesse. Pour moi, c'est plutôt la détente, un ralentissement aussi de notre rythme quotidien, où ce relâchement, on peut presque avoir peur de ce relâchement, parce que parce qu'on se retrouve tout d'un coup dans un hors espace-temps habituel. Et c'est pour ça que je fais ce programme aussi, parce que j'aime bien l'idée de contribuer à l'ambiance de fête de fin d'année par ce ralentissement, cette un peu contemplatif, un peu méditatif, où on se pose dans la douceur et dans le temps infini.
Nous allons passer peut-être au pays suivant pour aborder un nouveau chant.
Voilà, je voulais en chanter encore un.
Oui.
Et c'est pour peut-être prendre un bon bol de douceur.
Merci. Et ça, c'est toujours d'Italie?
Ça, c'est en latin. Oui, en latin. Donc, c'est la tradition d'ici. Mais la tradition sacrée, comme souvent, la langue de... C'était pas la langue commune, c'était la langue... Le latin, qui était comme le sanskrit en... Pour les orientaux, c'était aussi une langue sacrée qui n'était pas utilisée pour les besoins quotidiens et on le contemplait différemment, cette langue. Donc voilà, c'est un concert donc, qui a lieu le vendredi 18 à 20h à Manglon et une deuxième fois le dimanche 18 décembre. À 17h30.
Peut-être une dernière encore, celle en langue syriaque, c'est possible?
Il y en a deux et j'ai pas vraiment l'accompagnement, donc je vais vous chanter juste un tout petit hallel qui est Alléluia. Hein.
Hallel, hallel, hallelonoi, baralo, achmad, chaloi, haire raumo, gaubet elhem, hallel, hallel, hallelonoi, hallel, hallel, hallelonoi, baralo, mod khaloy aire raumo gobet elhem hallel hallel hallelonoy hallel hallel hallelonoy gobet elhem hallel hallel hallelonoy.
Ce chant, donc, signifie quoi?
C'est la Alléluia, la naissance de Jésus. Donc, parce que c'est une langue syriaque, donc de Liban et des alentours. Et syriaque aussi, c'est ancien araméen. C'est la même branche linguistique. Et donc, mais c'est. Le texte est chrétien, parce que c'est. C'est l'église des Syriaques, des chrétiens le premier chrétien de Proche-Orient.
Un hommage peut-être avec ce qui se passe actuellement en Syrie.
Oui, ça en fait partie. Il y a un deuxième chant en syriaque qui parle de Marie représentée par une colombe qui porte un aigle. Et voilà, tous c'est des chants de grande puissance et qui appellent à la paix.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Au revoir, bye.
Interview.
Au revoir.
À bientôt.
Interview.
Okay, the bird.